L'émission littérature avec ce soir en direct par téléphone Dominique Lestel pour parler de l'animal et l'avenir de l'homme. Bonsoir Dominique Lestel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct par téléphone. Alors l'avenir est, l'animal est, et l'avenir de l'homme est un livre plutôt de vulgarisation par rapport notamment à votre grand livre Les origines animales de la culture.
Non, là je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas du tout un livre de vulgarisation des origines animales de la culture, c'est un livre qui prend un tout autre thème qui est celui du rapport éthique que l'on a à l'animal.
Très bien.
En particulier la question du statut des défenseurs de l'animal dans notre culture.
Parfait. Alors, avec ce livre, quel est votre objectif? J'ai l'impression qu'il y a derrière un acte fort, un acte militant.
Il y a un acte militant en ce sens qui, effectivement, je soutiens une position qui est assez forte, qui consiste à défendre la légitimité du souci pour l'animal, au minimum, et de la défense de l'animal de façon un peu plus large. Il s'agit de partir du constat que l'animal est maltraité deux fois dans notre culture, une fois de fait par un certain nombre de comportements, d'attitudes, de pratiques, par exemple celle de l'élevage industriel, et d'autre part d'attaquer ceux qui défendent l'animal et qui trouvent insupportable de telles pratiques. C'est ça le fond du livre. Et de montrer que fondamentalement, la question de la défense de l'animal, la question du souci que l'on peut avoir pour l'animal, n'est pas du tout une question purement émotionnelle ou affective, mais qu'elle repose sur des bases, en particulier métaphysiques fondamentales.
Alors vous commencez par rétablir une vérité et affirmer une grande erreur de l'humanité par rapport à l'animalité. Vous affirmez que l'animal n'est pas une machine. Et vous dressez, au début de votre livre, une histoire de cette erreur. Pourquoi est-ce que vous énoncez « l'animal n'est pas une machine » divise encore autant les savants et les scientifiques et les philosophes?
Alors d'abord, je vous arrête encore une fois. Il ne s'agit pas d'un problème de l'humanité, il s'agit fondamentalement d'un problème de la culture occidentale. L'humanité a des attitudes qui sont multiples vis-à-vis de l'animal, mais la culture occidentale a développé quelque chose de particulier, qui est une haine savante vis-à-vis de l'animal. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique. Dans toutes les cultures, vous allez avoir des gens qui vont maltraiter leurs animaux, qui vont leur donner des coups de pied, qui vont les affamer, etc. Mais la particularité de la culture occidentale, c'est d'avoir théorisé cette maltraitance et d'avoir développé une espèce de haine, ce que j'appelle une espèce de haine savante vis-à-vis de l'animal. Qu'on voit très bien, par exemple, avec Malebranche, qui estime qu'à partir du moment où l'animal est une machine, il est possible d'en faire ce qu'on veut. Il est possible en particulier de pouvoir donner un coup de pied à son chien et d'avoir de bonnes raisons de rester insensible aux symptômes de douleur et de souffrance que le dit chien exprimait par rapport à cet acte de violence. Autrement dit, ce qu'on va avoir avec Malebranche, c'est une façon de sortir l'animal de la sphère de la sphère de l'éthique et de la sphère de la morale. Malebranche dit, puisque l'animal est une machine, on n'a pas besoin de prendre soin de lui, on n'a pas besoin de se soucier d'une souffrance qui, de toute façon, est purement illusoire.
Alors, du coup, je pose ma question en la précisant. Pourquoi est-ce que vous énoncez « l'animal n'est pas une machine » divise encore autant les savants et les scientifiques et les philosophes dans la culture occidentale?
Bien, ça, c'est une question qui est intéressante, à laquelle j'ai pas de vraie réponse. Je constate simplement que aujourd'hui, en particulier dans les sciences de l'animal, alors j'ai appelé sciences de l'animal pour faire court l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal et la psychologie comparée, l'étude de l'intelligence de l'animal par rapport aux autres animaux et par rapport aux humains. Donc dans ces disciplines règne la conviction profonde et fondamentale que l'animal est une machine. Et toute façon de prendre l'animal dans une perspective différente constitue une mise en danger ou même une déstabilisation de celui qui la professe. Donc c'est une question qui pose encore un problème. Dans un espace où l'on commence à être de plus en plus sensible, dans un espace public dans lequel où on est de plus en plus sensible à la question de la souffrance de l'animal, du mal-être ou du bien-être de l'animal, les laboratoires en particulier de psychologie comparée ou majoritairement en éthologie considèrent que l'animal reste un animal robot dans une perspective très cartésienne. Le paradigme dominant, pour reprendre un terme qui a été forgé par l'historien des sciences Thomas Kuhn, le paradigme dominant des sciences de l'animal reste celui de l'animal-machine.
Alors, du coup, est-ce que votre point de vue est toujours minoritaire parmi les savants, ou est-ce qu'il commence à le prendre une forme qui lui permettrait d'arrêter en tout cas la maltraitance à l'animal?
Alors, je ne dis pas que les animaux sont toujours maltraités dans les laboratoires ou dans les sciences de l'animal. C'est pas le cas en général. Mais la perspective de concevoir l'animal comme une machine légitime par ailleurs la possibilité de pouvoir le maltraiter. La question de l'animal-machine et la posture de l'animal-machine, si on peut dire, est majoritaire dans ces milieux scientifiques, mais il y a un certain nombre de chercheurs, plus ou moins marginaux, plus ou moins marginalisés, qui adoptent une position différente. Je donnerai qu'un seul exemple, celui de Marc Bekoff. Quand je dis marginalisé, il faut s'entendre. Marc Bekoff est professeur à l'Université du Colorado. Il est considéré comme un éthologue assez important. Mais ses positions contre l'animal-machine sont en général considérées comme moins importantes, comme mineures. Et pas fondées.
D'accord. Donc c'est toujours un point de vue minoritaire, alors.
Un point de vue minoritaire qui va d'ailleurs s'expliquer et qui n'apparaît pas nécessairement d'ailleurs de façon très très visible tout de suite, parce que l'éthologie est une discipline fondamentalement schizophrénique, c'est-à-dire que celui qui va considérer l'animal qu'il étudie en laboratoire comme une simple machine peut rentrer chez lui avoir avec son chien des interactions qui sont d'une très grande richesse et considérer que son chien fait partie de sa famille. Vérité dans le laboratoire n'est pas vérité au-delà du laboratoire. De même, le chercheur peut vous expliquer en face d'une bière bien évidemment, il ne croit pas à la thèse de l'animal-machine. Bien évidemment, c'est une position qui est un peu dépassée, que lui pense que l'animal a des émotions complexes, une subjectivité élaborée, etc. Le fait est que ce même chercheur, lorsqu'il se trouvera en face d'une décision à prendre pratique, par exemple, à qui attribuer des ressources en poste, en financement, etc., pour faire des recherches, l'attribuera quasi systématiquement à des chercheurs qui adoptent dans leur projet de recherche une position d'animal-machine, et non pas à ceux qui adoptent une position par laquelle l'animal est un sujet ou un individu.
Alors, pour continuer sur cette historique du point de vue minoritaire, vous dressez toujours un historique. Dans cette partie-là, il y a un sous-chapitre qui m'intéresse vivement, c'est la disqualification des approches non mécanistes de l'animal. Et vous donnez des noms qui sont plus ou moins connus. Le nom peut-être le plus connu, mais néanmoins assez peu souvent cité, c'est Jacob van Weckskull. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Et vous parlez à leur propos de psychologie phénoménologique.
Oui.
Qu'est-ce que la psychologie phénoménologique? Donc ça, on parle du début du XXe siècle.
Absolument, von Weckskull travaille fin du XIXe, début du XXe siècle. Il est en particulier spécialiste des animaux marins. Il est professeur à l'université de Berlin, mais passe tous ses étés dans une station biologique marine à Naples. Et il fait quelque chose qui est très intéressant, il introduit la notion de signification dans la biologie. Biologie extrêmement mécaniste de son temps, il introduit dans cette biologie extrêmement mécaniste la notion de signification. Alors comment? Eh bien, à travers la notion d'Umwelt. Donc, très rapidement, l'idée de von Weckskull est que chaque animal, chaque accès à son environnement par l'intermédiaire de ses sens physiologiques. Et suivant les espèces, ces sens vont être différents. Les autres humains, par exemple, nous n'avons pas accès à une vision ultraviolette, alors que certains insectes l'ont. L'idée donc de Fanuscul est de considérer que la façon dont deux animaux, par exemple une abeille, un humain ou un chien, vont avoir accès à un même environnement, va être très différent. Va être très différent parce que les sens physiologiques à travers lesquels ils vont percevoir cet environnement vont être différents. Et il introduit une notion fondamentale. Il considère que ce que fait l'animal, c'est interpréter son environnement. On a donc l'introduction d'une notion de signification et une représentation de l'animal comme interpréteur de sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une posture béhazuriste qui commence à se développer beaucoup à son époque, dans laquelle l'animal est une espèce de machine qui va réagir de façon réactive, de façon aveugle à des stimuli extérieurs. On est face à un sujet, et le terme est employé par Fanuscul, on a affaire à un sujet qui va interpréter le monde dans lequel il se trouve, qui va interpréter l'environnement et les autres, l'environnement dans lequel il se meut, et les autres avec lesquels il interagit. Alors ça donne lieu à ce qu'on va appeler après une psychologie phénoménologique, qui va être reprise en particulier par un chercheur néerlandais qui s'appelle Buitendijk, qui va lier cette approche de Fanuscul avec la phénoménologie husserlienne dont Buitendijk était un grand lecteur. Donc cette psychologie animale phénoménologique, fondamentalement, va considérer que l'animal est un interpréteur de sens, que c'est un sujet qui a une subjectivité et qui importe pour le scientifique qui va observer ces animaux, pour l'éthologue ou pour le spécialiste de psychologie comparée, de comprendre. Et on est effectivement dans une situation de compréhension au sens fort du terme et pas seulement de description de mécanismes machiniques.
Du coup, ce concept de psychologie phénoménologique est un concept quasiment philosophique.
Oui, c'est un concept philosophique, mais pas plus, pas moins que de considérer que l'animal est une machine et qu'on peut faire une psychologie mécaniste de façon satisfaisante.
Je viens justement du coup à cette notion de mauvaise foi conceptuelle. Vous écrivez à un moment donné, il faudrait écrire une histoire de la mauvaise foi conceptuelle dans laquelle le déni des souffrances animales constituerait un chapitre de choix. La mauvaise foi conceptuelle dont vous parlez, elle est déterminante. Est-ce qu'une bonne foi changerait la donne pour les dizaines de millions d'animaux sacrifiés par an?
Alors, la bonne foi conceptuelle reviendrait déjà à comprendre et à accepter les limites du paradigme mécaniste. Et ne pas voir les limites de ce paradigme mécaniste constitue effectivement un acte de déni et de mauvaise foi. Rappelez-vous quand même que les psychologues behavioristes, pendant des décennies, ont affirmé et réaffirmé que l'animal était une pure machine réactionnelle, qu'il n'interprétait rien, qu'il ne comprenait rien, qu'il ne souffrait pas, etc. En dépit de toutes les données empiriques auxquelles il pouvait avoir accès par ailleurs. C'est cette espèce d'aveuglement par rapport à l'empiricité qui est véritablement problématique. Le positiviste mécaniste n'est pas du tout l'empiriste qu'il se plaît à mettre en avant. C'est au contraire un idéologue qui refuse de voir le monde autour de lui et de voir les informations et les données auxquelles il a accès.
Et c'est là du coup où la théorie est importante. Là, on parlait de Jacob von Oxkull et de ce concept de psychologie phénoménologique. Si de manière théorique c'était ce concept qui avait emporté les données intellectuelles de la culture occidentale, notre monde serait donc différent dans sa relation avec l'animalité.
Oui, si une approche comme celle de von Oxkull est reprise et se développe, nous allons développer une autre relation à l'animalité qui peut changer beaucoup. Mais quand je dis nous, c'est-à-dire les scientifiques, parce que les gens qui ont des animaux domestiques, les gens qui vivent au milieu des animaux, comme les dresseurs, les chasseurs, etc. Je peux vous assurer qu'ils ont une vision beaucoup moins schématique de ce qu'est un animal.
La postérité des travaux de Jacob van Exkull, du coup, elles sont, c'est quoi sa postérité ?
Alors, sa postérité est très simple, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la biosémiotique, c'est-à-dire que c'est-à-dire une approche de la biologie au centre de laquelle se trouve la notion d'interprétation et de signification. Pas seulement sur l'animal, mais sur les êtres vivants de façon générale. Et c'est un courant qui est totalement inconnu en France aujourd'hui, mais qui se développe avec une certaine fougue et avec une réelle vitalité, en particulier en Europe du Nord. L'un des leaders de cette nouvelle approche, de cette renaissance de von Exkull, s'appelle par exemple Kaveh Likoul. Il est professeur de botanique à l'université de Tartu. Vous avez aussi Jesper Hofmeyer, qui est professeur de biologie à l'université de Copenhague, ou Anton Markos, qui est professeur de biologie et de philosophie à l'université Charles à Prague. Donc c'est des courants c'est un courant qui se revitalise considérablement depuis quelques années.
On va terminer avec cette histoire de thèse de l'animal-machine. Je vous cite page 54. Donc là, on va virer vraiment vers la philosophie, la métaphysique. Vous écrivez « La thèse de l'animal-machine, enfin, ne dit pas seulement que tout animal est un ensemble de processus causaux, mais que tout animal peut être exhaustivement compris comme un pur système causal, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun reste. C'est ce dernier point fondamentale dans la conception d'animal-machine. » Et là, vous continuez. Et là, vous dites, il n'existe aucun reste. Est-ce ce reste qui fonde l'homme et qui caractériserait aussi la vie animale ?
L'un des problèmes majeurs de l'approche mécaniste et positiviste de l'animal est de considérer qu'on peut en faire une description totalement exhaustive à travers ces mécanismes. C'est une thèse qui est très très bien exprimée, par exemple par le philosophe américain Daniel Dennett, à travers sa métaphore du rétro-ingénierie. Pour lui, ce que fait le spécialiste de l'animal, l'éthologue, c'est un processus de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'il a une machine en face de lui, qu'il n'a pas construite lui-même, et dont il va essayer de reconstituer le plan. C'est-à-dire que pour lui, très clairement, il est possible de fournir un plan d'animal. Et de même que votre grille-pain ou votre voiture, vous pouvez faire un plan de votre voiture qui décrira exhaustivement ce qu'est votre voiture. Hein, il n'y a pas de reste dans votre voiture. Une description purement causale de votre voiture, une description purement mécaniste et électrique de votre voiture, électronique de votre voiture, permet de pouvoir rendre compte de tout ce qui est dans la voiture. Et l'approche mécaniste, c'est ça. C'est considérer que l'animal, c'est comme une voiture. Vous pouvez en fournir une description exhaustive, sans aucun reste, sans aucune obscurité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse vous échapper. Autrement dit, ça veut dire, concrètement, que l'humain, tout au moins le chercheur, peut avoir accès de façon totale et exhaustive à ce qu'est un animal.
Alors, des restes, on en voit beaucoup dans votre livre, vous donnez des exemples, après vous allez parler de que les animaux ont des rapports complexes à la mort, par exemple, que des animaux sont innovateurs, et vous allez parler aussi que des animaux ont des activités esthétiques. C'est un chapitre qui m'a particulièrement intrigué, où vous racontez l'histoire de Siri et de son soigneur Gugwa, donc cette éléphante qui a une activité picturale. Là, du coup, c'est un exemple de reste.
Absolument, on a là une activité qui n'a pas d'explication simple, et en particulier pas d'explication fonctionnelle. On a cette éléphante qui se trouve captive dans un zoo et qui, la nuit, trace des signes sur le sol. Entre parenthèses, c'est quelque chose qui est assez répandu chez les éléphants. Mais à l'époque, on ne le savait pas, et son soigneur s'en rend compte. Et non seulement s'en rend compte, mais il y attache de l'attention et décide de l'aider. Il lui fournit des feuilles et des crayons. Et elle va cette éléphante va tracer des signes sur le des dessins, va s'exprimer graphiquement sur ces feuilles. Le soigneur va envoyer ces feuilles à des spécialistes de l'art qui vont trouver que c'est très intriguant et qui ne vont pas réaliser tout de suite qu'il s'agit d'un animal. C'est uniquement quand le soigneur dira qu'il s'agit d'un animal que la véritable identité de l'artiste, entre guillemets, sera révélée. Alors, une question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est de savoir ce qui est en jeu ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce phénomène? Alors, dire que c'est un phénomène artistique serait sans doute un peu excessif, parce que ce serait ramener la pratique artistique à un pur jeu comportemental, ce qu'elle n'est certainement pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là une expressivité graphique qui est extrêmement problématique et qui ne peut en aucun cas être expliquée par les catégories habituelles de l'éthologie classique.
Et il y a dans votre livre plein d'autres cas d'animaux, du coup, quand on ne connaît pas le sujet, quoi, comme moi, j'ai été surpris. Enfin, j'avais juste lu les origines animales de la culture, où j'avais vu d'autres exemples, mais il y a comme ça de très très nombreux, d'innombrables même exemples d'animaux qui ne répondent pas du tout, du coup, qui n'entrent pas dans ce carcan de l'animal-machine.
Oui, alors c'est aussi un sujet qui beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est celui des animaux singuliers. L'animal singulier, c'est l'animal qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter compte tenu de l'espèce à laquelle il appartient. Alors ça fait un peu... La dimension normative de cette caractérisation fait un peu bizarre, mais elle fait un peu bizarre parce qu'on a, on a justement une conception très, très mécaniste de ce qu'est un animal et de la relation qui existe entre l'animal et l'espèce à laquelle il appartient. Nous sommes convaincus que tous les éléphants doivent se comporter de telle ou telle façon, que tous les orang-outans doivent se comporter comme des orang-outans, que les baleines doivent se comporter comme des baleines et les corbeaux comme des corbeaux. Or, nous avons des individus singuliers qui ne se comportent pas complètement comme ils devraient se comporter. Il y a un exemple que j'ai beaucoup étudié avec une de mes collègues, Chris Hertzfeld, qui est l'exemple d'une jeune femelle orang-outan de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, qui avait la capacité tout à fait remarquable de faire des nœuds. C'est une véritable virtuose du nœud, c'est des vrais nœuds. Elle faisait beaucoup de nœuds, elle faisait des nœuds pas seulement avec les doigts, mais aussi avec les pieds, avec la bouche, etc. Alors les orang-outans ne sont pas supposés savoir faire des nœuds. Les orang-outans, normalement, ne font pas de nœuds. Ils ne savent pas faire des nœuds. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'était une femelle orang-outan qui était captive, et elle a été influencée, elle a été un peu... polluée par l'environnement humain au milieu duquel elle se trouvait. Mais c'est comme si vous disiez que l'enfant est pollué par l'environnement humain dans lequel il se trouvait. Cette femelle orang-outan était effectivement dans un milieu humain, mais elle a su saisir les opportunités de faire quelque chose. Et on n'est plus du tout dans un système causal simple, en ce sens que elle faisait ses nœuds de façon extrêmement virtuose, mais que le mâle qui était avec elle dans la même cage ne faisait absolument pas de nœuds. Et non seulement il ne faisait pas de nœuds, mais en plus, il en ressentait une certaine rage. Vous aviez cet orang-outan mâle qui regardait très attentivement ce que faisait la femelle quand il faisait des nœuds, qui prenait les cordes avec lesquelles il faisait les nœuds, qui essayait de faire les nœuds, qui n'y arrivait pas, qui s'énervait et qui frappait la femelle. Il y avait un beau sujet là sur la phylogenèse de la violence conjugale. Tout qui était... la femelle super intelligente et futée, innovante, le mâle un peu bête et archaïque qui ne trouvait que le moyen de se battre et de frapper la femelle pour s'exprimer. Et donc là, cette femelle orang-outan, Watana, faisait quelque chose que très très peu d'autres orang-outans ont jamais été observés en train de faire.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique Lestel, de nous avoir parlé de l'animal et l'avenir de l'homme et d'avoir répondu à mes questions en direct par téléphone. Merci beaucoup à vous.